Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue sur Radio Imo en direct du CIMI 2025, la première édition à la porte de Versailles. On parle beaucoup d'immobilier bas carbone en 2025, mais dans un marché en tension, avec une production neuve, vous le savez, en chute et des coûts de construction qui explosent. La question est simple, comment passer du manifeste au business model qui tient dans la durée? Notre invité du jour, mon invité du jour, c'est du moment en tout cas, c'est Mathias Navarro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au cœur de ce sujet. Vous êtes cofondateur et co-dirigeant du groupe Redman, promoteur indépendant créé en 2007, devenu société à mission et premier promoteur français certifié B Corp, avec une raison d'être clairement affichée, développée. Les villes bas carbone et inclusives. Alors, on va discuter de plein de choses, hein, du modèle très orienté régénération urbaine. Hein. On va discuter aussi de derniers signaux forts de certains de vos projets, le campus Omnes, par exemple, Omnes Éducation à Marseille. On va parler de votre projet Lafayette. Avant toute chose, si vous deviez présenter Redman en 2025 à un élu, à un investisseur qui ne vous connaît pas, vous le diriez quoi?
Alors Redman, effectivement, qu'on a créé avec Nicolas Ponson il y a 18 ans maintenant, on vient de fêter notre anniversaire, c'est un entrepreneur immobilier. On est façonné pour produire des espaces. La production recoupe tant la construction que la régénération d'espaces existants. Donc c'est pour ça que nous, on parle de production. Donc on est un entrepreneur immobilier qui va produire des espaces et dont l'objectif, c'est que ces espaces soient utile et durable. Utile pourquoi ? Parce qu'il y a des gros sujets aujourd'hui, on pourra peut-être l'occasion d'en parler, sur finalement l'intensité d'usage des mètres carrés. Aujourd'hui, on se rend compte que tant en termes de bureaux qu'en termes de logements, les mètres carrés qui existent ne sont pas suffisamment utilisés. Et puis sur leur durabilité, notamment leur transformabilité à terme. Donc voilà, donc nous on se présente comme des entrepreneurs immobiliers qui sont là notamment pour produire des mètres carrés utile et durable.
Donc produire, on comprend bien, produire. Ça inclut la construction et la réhabilitation.
Oui.
Justement, donc vous avez fait de la régénération urbaine le cœur du modèle. 60% de votre activité est en réhabilitation, reconversion, restructuration, c'est bien ça?
Oui.
Plus de 400 000 mètres carrés déjà livrés avec des opérations extrêmement complexes. Par exemple, la Tour Ariane à La Défense, c'est vous. Ou Apollo dans Paris 13, c'est oui. Vous également. Qu'est-ce qui vous a fait basculer aussi franchement de la promotion classique, hein, ce que vous faisiez au départ, vers ce modèle-là?
Ce qui nous a fait basculer, c'est la compréhension de l'existant. En fait, je ne vais pas redonner litanie de chiffres, je pense que tout le monde les connaît à peu près, mais de nouveau, tant en termes de logement qu'en termes de bureaux, il y a trop d'espace, trop de mètres carrés aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit plus en construire, on en construit nous encore, mais on en construit de manière ciblée, là où il faut, là où il y en a des besoins. En revanche, il y a des mètres carrés qui débordent de partout en termes de bureaux. J'en ai parlé il y a quelques jours sur les bureaux, par exemple. Aujourd'hui, on a plus de quasiment 15% de vacances sur l'ensemble de l'Île-de-France, près de 6 millions de mètres carrés. Il y en a quasiment autant sur le reste du pays. On doit pouvoir travailler sur ces mètres carrés. En logement, c'est pareil. Il y a près de 50% des logements qui sont sous-occupés. Donc, pour nous, ça nous a semblé être une évidence de dire l'avenir, la pérennité de notre boîte, elle ne tient pas sur le fait qu'on doive encore construire, elle doit tenir, et c'est ça qui nous aidera aussi à passer cette crise, sur le fait qu'on va faire notre spécialité du fait de retaper, réhabiliter, rénover, restructurer, réemployer. Tout ça, c'est le cœur de nos réflexions au quotidien.
Et alors, en termes de rentabilité, de risque, de temps de montage, est-ce que c'est réellement tenable dans la durée ou est-ce qu'un positionnement seulement pour quelques acteurs de niche?
Alors, pour moi, ça ne doit pas devenir, c'est pas une niche, ça doit vraiment devenir le cœur.
Ça doit se démocratiser.
Tout à fait. Et la réhabilitation, c'est vraiment où la complexité, l'endroit où la complexité devient un métier. C'est pas les mêmes équipes qui peuvent travailler sur de l'industrialisation, du plan type. Qu'on déploie au kilomètre avec des opérations de réhabilitation qui sont par définition des opérations uniques, qui sont toutes des prototypes Et donc, d'où la difficulté de les déployer de manière massive, parce que chaque dossier est différent. En revanche, c'est une spécialité de pouvoir les appréhender, de pouvoir rendre la complexité faisable et au final créer de la valeur là-dessus. Donc oui, notre business model, il est lié au fait qu'on maîtrise cette complexité et qu'on va apporter à nos partenaires de la sécurité sur les délais d'opération. Vous parliez des coûts, la sécurité sur les coûts de développement et puis la sécurité sur la qualité qui va être rendue. C'est ce triptyque délai, coût, qualité qu'on va apporter à nos partenaires, et c'est ça qui fait la base de notre rentabilité.
Alors si on regarde vos projets récents, on voit une forme de manifeste, hein. Je pense par exemple au 206 Lafayette dans le 10e, pardon, à Paris, où vous avez préservé 68% des surfaces existantes, vous avez ajouté 2 bâtiments neufs bas carbone, multiplié les certifications environnementales et inspiré ensuite le PLU bioclimatique de la ville de Paris.
Oui.
C'est un élément assez fort. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une précédente émission de ce projet-là. Au CIPCA, voilà, exactement. Le campus Omnes Éducation à Marseille, premier bâtiment français de 7 étages recevant du public, construit avec des blocs de terre comprimée issus du sol local. C'est assez incroyable hein, quand on entend ça. Relié à des solutions bas carbone type géothermie et solaire. Ça, pareil, ça se démocratise. Hein, le solaire, c'est en train... Bon, on est un peu en retard quand même en France sur le solaire.
Oui, on est très en retard.
Mais heureusement qu'il y a des projets comme ça. Donc quand on prend du recul, qu'est-ce que ces opérations disent de votre stratégie ?
En fait, elles disent que toutes les opérations sont possibles, toutes les opérations de restructuration, parce que souvent des propriétaires sont devant une opération qui semble complètement impossible. J'en cite une autre, je reviendrai sur celle que vous avez citée, mais vous avez parlé de la tour Ariane. La tour Ariane, c'est
À la Défense,
une tour de bureau dont on a réalisé l'ensemble de la rénovation, restructuration de la façade pour rentrer dans les critères du décret tertiaire. On l'a réalisé en site occupé. La tour était intégralement occupée par des locataires. Et forcément, c'est souvent un frein pour les propriétaires de se dire « Mais moi, j'ai un actif qui est rempli. Je ne vais pas le vider pour aller faire des travaux. » Parce que notamment la Défense, en ce moment, c'est quand même un challenge d'aller re-remplir une tour de bureau. Et on a proposé une solution technique, effectivement un peu plus chère, effectivement un peu plus longue, mais qui a permis de conserver de la valeur et conserver beaucoup de valeur, parce qu'à la fin des travaux, la tour était encore quasiment remplie. Et ça, c'est une première en Europe. Et ça peut montrer que, par exemple, un des freins qui est l'occupation des bâtiments sont un frein à la réalisation de travaux de restructuration. Ben non, on peut faire comme ça. Pour le 206 Lafayette, qui est effectivement sur lequel on a poussé énormément de certifications environnementales, mais qui à la fin nous aura apporté énormément de lauréats de awards architecturaux. On a eu la chance d'avoir le MIPIM Awards il y a quelques jours. On a eu l'équerre d'argent aussi sur ce sujet. C'est quoi la complexité de ce projet ? C'est que c'était 9 bâtiments différents. Donc à tel point que dans les travaux, on a dû faire appel à 6 entreprises de façades différentes, parce que les façades étaient tellement différentes qu'on ne pouvait pas faire appel à une seule façade. Donc oui, quand on est en amont du projet, on se dit « mais c'est impossible, on ne va jamais y arriver, il faut qu'on démolisse pour arriver ». Et en fait, non, on a poussé effectivement tous les curseurs sur ce sujet, et à la fin des fins, c'est une opération qui effectivement a été précurseur et a poussé sur le PLU bioclimatique à Paris, mais qui est une réussite urbaine, déjà, avant tout, parce qu'on a des bâtiments et un quartier qui revit autour de ce projet, et aussi une réussite commerciale. Donc moi, je remercie le maître d'ouvrage Financière Saint James et la famille Malard avec qui on a travaillé là-dessus, et les architectes que je veux citer, Think Tank et Data.
Alors c'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur une question très directe que vous avez posée dans une de vos tribunes, une fois qu'on entend tout ça. La ville bas carbone est-elle réservée aux riches ?
Ah oui.
Vaste question. Vous alertiez justement sur le risque de voir ces projets se concentrer sur quelques quartiers très solvables, parce que là, les quartiers que vous avez cités, c'est le cas. Hein, les quartiers des projets que vous avez cités. Avec le recul de ces dernières années, au regard de votre pipeline actuel, que ce soit les friches, les quartiers de gare, le campus étudiant, est-ce que vous sentez qu'on est en train de réussir à démocratiser le bas carbone réellement ?
Non. Et c'est bien le problème. Moi, je pense que alors, ça avance un peu. Mais le problème de ces opérations, c'est qu'effectivement, elles coûtent un peu plus cher.
Moi, donc, il y a une pression économique, en fait.
Bien sûr, il y a une pression économique, mais il faut aller dans ce sens-là. Nous, on a, c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, est notre cœur de cible chez Redman. On ne veut pas lâcher le fait qu'on est là pour produire des mètres carrés utiles et durables. En revanche, on sait que c'est aussi une façon de produire plus cher. Donc, par rapport à la localisation, ça marche dans les cœurs de métropole, pas que de cœur de Paris, ça marche dans le cœur de Marseille, ça marche dans le cœur de Lyon. J'aurais peut-être l'occasion de parler d'une opération qu'on fait de restructuration d'un immeuble de bureaux en logement, une tour de bureaux en logement en cœur de Lyon.
Où ça, à Lyon ?
Dans le 8e, c'est une opération qu'on fait avec Iquette, qui s'appelle la tour Cirque, qu'on transforme. Mais c'est toujours du cœur de métropole, c'est-à-dire là où les valeurs sont les plus fortes. Et comme j'ai l'habitude de dire, une tonne de CO2, ça pèse pareil en cœur de ville qu'en banlieue. Et donc, il faut qu'on arrive à pouvoir pousser ces typologies d'opérations absolument partout sur le territoire. Et c'est là où il y a un sujet, parce que les valeurs immobilières, les valeurs vraiment intrinsèques, ne permettent pas d'aller chercher ces typologies de travaux. Donc, ça ne peut marcher que si, notamment, les pouvoirs publics accompagnent sur ces territoires la capacité, notamment, à faire, par exemple, plus de mètres carrés. Moi, je pousse beaucoup sur le fait que les opérations les plus vertueuses et par exemple de la constructibilité additionnelle. C'est pas normal que sur des appels d'offres, des concours, quand on se retrouve avec des opérations très vertueuses, on ait la même constructibilité que des opérations qui le sont moins, parce que par définition, elles vont pas pouvoir advenir parce que elles ne courent pas dans les mêmes, elles ne jouent pas dans la même cour. Donc il faut des sujets, par exemple sur la TVA, pour pouvoir baisser la TVA. Plus les opérations sont engagées, plus les opérations sont vertueuses, moins elles doivent avoir de TVA. Voilà, donc il y a un certain nombre de primes à la vertu qu'il faudrait pousser pour l'immobilier vraiment bas carbone.
Alors, on entend beaucoup d'industrialisation dans vos projets. Par exemple, le béton fabriqué et la double peau sur le 206 Lafayette, les solutions hors site sur certains chantiers, les modules 3D industrialisés sur la résidence étudiante à Paris-Saclay, avec Vestac, les matériaux biosourcés et blocs de terre compressés, je l'ai dit tout à l'heure, à Marseille. Est-ce que pour vous, le hors-site, le modulaire, la préfabrication sont devenus des conditions non négociables, justement, du bas carbone à coût maîtrisé ?
Oui, c'est des conditions non négociables. Alors, quand on parle du hors-site, on parle souvent tout de suite au 3D. Il n'y a pas que la 3D en hors-site. On fait beaucoup de 2D. On fait aussi beaucoup de pièces. Donc, on a fait, par exemple, une opération, quand on a fait les logements de la station F, on avait fait l'ensemble des... Non, je parle d'il y a une dizaine d'années déjà. Mmh. Des salles de bain étaient faites en préfabrication type bateau, par exemple. Donc, c'est un sujet de qualité et c'est un sujet, effectivement, de maîtrise des coûts. Donc, il y a besoin de pousser la préfabrication sur l'ensemble des chantiers, et ça vaut aussi, on peut faire la préfabrication sur la réhabilitation. Donc, la réhabilitation n'est pas incompatible avec le hors-site, mais c'est toujours aujourd'hui un sujet qui est trop un sujet de niche, parce que les industriels arriveront à baisser leurs tarifs, parce que c'est toujours un sujet de tarifs, que si les commandes sont massives. On a besoin de voir ces usines tourner à plein régime pour être rentable. Et donc, là-dessus, nous, on essaie au maximum, et vous l'avez cité quasiment sur l'ensemble de nos opérations, d'essayer, en tout cas, c'est un mindset permanent, de voir ce qu'on peut faire sur chacune de nos opérations comme préfabrication. Après, on ne peut pas le faire tout le temps, faire partout.
Et justement, est-ce que vous mettez la limite ?
La limite,
qu'est-ce qui doit rester du sur-mesure ?
Alors, le sur-mesure, on va y avoir plus de sur-mesure, notamment sur les réhabilitations. De nouveau, ça n'exclut pas de la préfabrication, mais bien évidemment, on va en faire moins que sur du neuf, parce qu'on va être sur du tailor-made complet. Mais sur le neuf, il n'y a pas de limite, normalement, à la préfabrication. La seule limite, c'est la capacité à pouvoir absorber les coûts qui nous sont proposés par les industriels. Et là-dessus, de nouveau, c'est un cercle. D'ailleurs, plus on leur en donnera à faire, plus les prix normalement baisseront, et donc c'est normalement une chaîne assez vertueuse à lancer. Et puis après, il y a les limites architecturales, mais honnêtement, maintenant, tout le monde est à peu près arrivé à la conclusion qu'on arrivait à faire de l'architecture tout en faisant de la préfabrication.
Alors, vous avez dit une phrase assez claire, sans contrainte, les choses avancent moins vite, en parlant de la réglementation et de climat. Donc, en fait, on est obligé d'être obligé.
Oui, on est obligé d'être obligé. Enfin, il n'y aurait pas la RE 2020, puis la 2025 et bientôt la 2028 qui se serait mis en route. On serait toujours, nous, en tant que producteurs d'espace et donc notamment de promoteurs, en train de se battre, entre guillemets, contre des acteurs qui seraient encore en train de construire avec des parpaings. Et c'est parce que la réglementation, sous forme un peu de voiture-balai, pousse et augmente les minimums de qualité, les minimums en termes d'énergie, les minimums en termes de carbone, etc., etc., qu'on joue à peu près dans la même cour. Alors, on ne joue jamais dans la même cour quand nous, on va pousser d'ores et déjà du RE 2028, voire sur certaines opérations du RE 2031 par rapport à la RE actuelle, mais c'est quand même un minimum qui a été remonté à l'inverse de ce que j'ai dit il y a deux secondes, le pendant, il y a aussi une primovis. La primovis, c'est la capacité de faire autrement, de faire moins bien, et du coup de faire moins cher. De faire moins cher en faisant moins bien, c'est ça que moi j'appelle la primovis, et c'est ce qui permet d'être compétitif alors qu'on est en train de baisser tous les curseurs. Donc sans contraintes, oui, ça avance moins vite. Après, les contraintes, il ne faut pas les monter jusqu'au bout. C'est aussi pour ça que les paliers de la RE ont été inventés, ce qu'on ne pouvait pas passer en 2020 directement au seuil 2031, c'eût été une folie. Mais il y a besoin d'avoir ces paliers pour pouvoir pousser l'ensemble de l'industrie. Et je reviens pardon sur le sujet des industriels. Pareil, eux, quand ils ont besoin d'investir dans des chaînes de production, notamment sur la 3D, et on ne peut pas, quand on est industriel, investir sur des outils qui vont devoir changer tous les deux ans. Quand on investit sur une chaîne de production, on investit sur 20 ans, sur 30 ans. Et donc, ils ont besoin d'avoir une perspective très longue, donc très long terme, de ce que va être la production, le niveau de qualité qui va être attendu, pour pouvoir investir dans les chaînes de production et faire baisser, du coup, les coûts de production et, du coup, à la fin, les coûts des travaux.
Mais alors, j'entends ce que vous dites, mais où vous mettez le curseur entre, on l'a dit, cette régulation, cette réglementation qui est forte, hein, je pense aux ZAN, je pense à la RE 2020 là, que vous avez cité, au DPE pour le résidentiel. Donc, où vous mettez le curseur entre cette régulation forte et la réalité d'un secteur en crise, parce qu'il faut le dire quand même, en crise avec des opérations qui se bouclent difficilement.
Oui, mais moi, j'ai pas la conviction.
Plus une crise du logement,
bien
plus.
Bien sûr. Et nous, on l'a subi comme tous
le
les
bâtiment,
acteurs de l'immobilier.
Le...
Mais moi, ma conviction, c'est que c'est pas la réglementation qui aujourd'hui fait la crise. Honnêtement, ce serait.
Pour le logement, les DPE qui sortent des passoires thermiques alors qu'on a déjà plus assez de logements.
Ça nous suit. On n'est plus dans la construction. Ouais. Là, on est sur comment est-ce qu'on arrive à mettre suffisamment de logements.
La régulation de l'offre.
Mais le sujet, il y a des énormes besoins et personne, je pense, conteste les besoins, notamment en logement. Mmh. Mais le vrai sujet, c'est que la production, même quand elle était à son top, la production ne répondait pas aux besoins. Elle ne répondait pas aux besoins. On s'en rend compte aujourd'hui, mais il y a des besoins.
La production ne répondait déjà pas aux besoins.
Elle ne répondait déjà pas aux besoins. Et c'est d'ailleurs pour ça que le nombre de logements vacants, par exemple, explose depuis. Mais ce n'est pas maintenant que ça explose depuis 15 ans, depuis 20 ans. On est quand même passé, on est bientôt à 4 millions de logements vacants en France.
Non, on n'est pas à 4 millions.
On est à 3,6 millions.
Il y a... Les chiffres de l'INSEE, dedans, ils comptent les résidences touristiques, ils comptent les changements de locataires. Ce n'est pas les vrais chiffres. Selon Clameur, qui a des vrais chiffres, c'est 150 000 logements vacants.
Non, on ne va pas faire une bataille de chiffres.
Regardez l'observatoire Clameur, c'est l'observatoire le plus précis sur les logements et sur les logements vacants.
En tout cas, ce qui est sur, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a 70% des Français qui sont éligibles aux logements sociaux. 70%, ouais. D'accord. Au maximum des maximums, on en produit 25%. Donc on ne va pas dire qu'on va en produire 70%, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Hein. Mais ça veut dire que, par exemple, une énorme partie des Français n'ont pas accès aux logements sociaux, parce qu'on n'a pas assez, et on n'en construira de toute façon jamais assez. Et en même temps, à côté, la production de neuf, libre, entre guillemets, c'était 70%, enfin le reste, quoi, 70-75%. Et ils n'ont pas non plus accès à ce marché-là, parce que c'est des marchés qui sont pour les plus riches. L'énorme partie, la classe moyenne, n'a donc ni accès au logement social, ni accès au logement libre classique. Et donc, il y a notamment... C'est ça où je dis qu'il y a une décorrélation entre la production et les besoins. Mmh. Les besoins sont là, la production n'est pas la bonne. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi à essayer de trouver comment est-ce qu'on trouve une espèce de nouvelle troisième voie. Donc, il y a les BRS, notamment, qui ont été lancés.
Le logement intermédiaire.
Ça, c'est hyper intéressant, mais il faut trouver les moyens de massifier
ça. Alors, BRS, c'est le bail réel solidaire pour nos auditeurs.
Il y a besoin de massifier ça, parce que c'est là où il y a le plus de
besoins. Donc, des solutions innovantes pour essayer
de trouver du logement abordable.
Pour que tout le monde puisse accéder à la propriété.
Exactement.
Mmh. Un petit mot pour finir peut-être sur le CIMI. Le CIMI 2025, là, vous êtes satisfait? C'est vrai que l'édition touche à sa fin.
Alors, le CIMI, oui, bien sûr, on est satisfait. Alors, déjà, la localisation, la composition géographique et physique.
Vous validez, du coup, le lieu?
Le fait que ce soit sur un seul niveau, franchement, ça change. Moi, en tout cas, pour moi, ça change tout.
Et la hauteur sous plafond aussi?
La hauteur sous plafond, enfin, on respire, ouais. Franchement. Donc, c'est une super édition. Beaucoup de monde. Là, bon, on est à la fin du CIMI, il y a un peu moins de monde au moment où on parle, mais il y a eu énormément de monde hier, donc moi je valide 100%.
Bon, écoutez, j'ai eu que des invités qui ont validé à ce stade. Il n'y a personne qui m'a dit... Si, peut-être une personne, mais c'était quelqu'un de l'équipe, c'était pas mon invité. Bon, merci beaucoup en tout cas Mathias Navarro pour cet éclairage très concret. Redman, donc on retient que le bas carbone chez Redman, c'est plus un sujet de communication, mais bien un modèle économique construit autour de la régénération urbaine. On en parle beaucoup d'ailleurs, j'ai fait une conférence dessus le premier jour, de l'industrialisation intelligente et un engagement long terme pour les territoires. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec la directrice du salon du CIMI. Elle sera là sur ce plateau. À tout de suite.
Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.